France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Cette édition se partage entre une réalisation qui prospère dans le département de la Semaine, à savoir la Somme, et une belle initiative née en Bretagne avant de déménager en Gironde. On doit celle-ci à Rachel Lagière, dame courage pour avoir repris en main son conservatoire du goût après le décès prématuré de son compagnon maraîcher de profession. Il s'agissait de Christophe Coligny, qui s'était taillé une belle réputation par son engagement en faveur des semences paysannes. Le conservatoire du goût, aujourd'hui, a quelque 3000 variétés de plantes comestibles utilisables partout en France, à commencer par les grands chefs, mais même les petits. Rachel sera avec nous tout à l'heure dans la seconde partie de ses carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Yann Paulmier, bonjour.
Bonjour.
Yann, vous êtes chef de projet au sein de l'association La Machinerie, que l'on avait présentée peu de temps après sa naissance, puisqu'elle existe depuis 2014. Espace de travail partagé, je dis ça pour les personnes dont le terme de coworking irrite les oreilles, et Fab Lab à Ville d'Amiens, sauf que vous avez pris une sacrée envergure en passant de 3 à 9 salariés, de 180 à 800 mètres carrés. Vous venez d'être honoré par des prix, en particulier le prix coup de cœur de la Caisse d'Épargne de France, dans le cadre de projets exemplaires de la région. Que s'est-il passé entre 2015 et 2019?
Ah bah, ce qui s'est passé, c'est que cette initiative qui a été quand même construite avec les habitants, avec les potentielles personnes intéressées, a véritablement rencontré son public, et que l'intérêt qu'on avait pressenti à travers des tests, à travers des essais à petite échelle, s'est transformé en succès, en tout cas, à rencontrer véritablement la demande à laquelle on s'attendait.
Mmh. On aime bien ces espaces partagés, inventés dans les quartiers ou dans certains territoires de la campagne, mais on pense rarement à l'insertion professionnelle. Et vous, vous avez mis au point quand même une approche des métiers numériques destinée à ces personnes qui sont souvent sans emploi.
Alors oui, entre autres, effectivement, c'est vrai que ces tiers-lieux, parfois, on a l'impression que c'est réservé à des travailleurs numériques hautement qualifiés, etc. Et nous, c'est vrai que depuis le démarrage, on a fortement mis l'accent sur le fait de rendre accessible à tous les outils de fabrication numérique, les imprimantes 3D, les découpeuses laser, et puis toutes les compétences autour de la fabrication des métiers du bois, etc. Pour nous, c'était très important de bien faire exister au sein de notre lieu des activités qui soient accessibles à tous, y compris en termes d'insertion professionnelle pour des gens qui n'ont pas forcément de hautes qualifications ou qui sont éloignés du marché de l'emploi.
Et vous les trouvez comment, ces personnes?
Alors, notamment pour les personnes éloignées de l'emploi ou pour des jeunes, on travaille avec les maisons de l'emploi, enfin la maison de l'emploi en l'occurrence, la mission locale, l'école de la deuxième chance, les centres sociaux culturels de la ville, tout un tas d'acteurs et d'associations qui ont l'habitude de travailler avec ces publics et pour lesquels nous, on peut être un espèce de relais sur la partie compétences numériques.
Originalité encore de La Machinerie, outre l'atelier de fabrication numérique, le Fab Lab, l'espace de travail collaboratif, le coworking, vous avez ouvert une co-boutique.
Effectivement, on a expérimenté une co-boutique pendant quelques années, et là c'est vrai que notre changement de local en 2017 nous a amené à mettre un peu en sommeil cette activité-là. Voilà.
Bon. En revanche, existe bel et bien, donc ça c'est aussi le plus de La Machinerie, un incubateur d'économie sociale et solidaire, vous avez appelé La Machinerie Starter.
Alors tout à fait. Ce qu'on a constaté à travers nos activités générales de sessions libres ou de Fab Lab, c'est que les gens venaient au départ pour acquérir une compétence ou pour développer une idée. Et en fait, pour certains d'entre eux, ça pouvait aboutir jusqu'à la volonté de créer un projet ou une activité autour de cette idée. Donc on a créé la brique suivante, entre guillemets, c'est-à-dire un incubateur qui permettait de réfléchir non pas seulement au produit, mais aussi à l'activité autour de ce produit. Donc ça s'est transformé en incubateur de projets ESS.
Alors ça veut dire, on a un projet d'entreprise, on va vous voir, on peut être hébergé chez vous, avoir les outils de communication, construire un budget avec vous.
Tout à fait. Alors effectivement, dans cet incubateur, il y a à la fois des formations sur les compétences techniques qui peuvent être nécessaires pour la création de son outil, donc savoir utiliser des machines, savoir réfléchir en termes d'industrialisation ou des choses comme ça, mais aussi des compétences administratives, financières, budgétaires, etc., qui sont nécessaires à la création de l'entreprise en tant que telle.
Cet incubateur s'adresse à des projets collectifs et qui répondent à un besoin social. J'insiste parce qu'on parle d'incubateur économie sociale et solidaire. Ça prouve effectivement qu'on répond à un besoin des habitants dans le mieux vivre, dans le vivre ensemble. Avec, ça peut être complètement innovant, mais ça va d'abord dans ce sens.
Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, on entend beaucoup parler d'incubateurs technologiques ou d'incubateurs de projets innovants. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites par d'autres structures. Voilà, nous, on n'a pas voulu se positionner sur ce champ-là qui était déjà pris en charge par d'autres acteurs. Et nous, c'est vrai que notre particularité, c'est d'être soit dans le collectif, puisque c'est vraiment l'essence de notre initiative, soit vraiment dans la réponse à des besoins sociaux du territoire et la co-construction avec des habitants. C'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent et c'est un peu notre plus-value en termes d'accompagnement.
Bravo en tout cas pour cette démarche qui vous a permis d'être honoré par les lauriers 2019, la Fondation de France, puisque c'est elle qui organisait en particulier la Fondation Nord, ces trophées 2019. Le site, c'est lamachinerie.org. Merci Yann.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
La laisse de mer, cette langue de littoral qui se découvre à marée basse, c'est aussi cette bande de détritus, de déchets que la mer rejette sur les plages. Et c'est à ce titre que l'association SOS Laisse de mer a vu le jour. On la doit à une artiste coloriste installée depuis quelques années à Cailleux-sur-Mer, Sophie Hélène. Bonjour Sophie, qui nous a écrit. À force de ramasser des déchets qui peuvent s'intégrer à l'une de ses créations, Sophie s'est davantage inquiétée de l'atteinte à l'environnement en mer ou sur terre de nos de consommation et de nos pratiques peu responsables. Son association passe par de l'éducation à l'environnement, mais elle propose aussi des événements pédagogiques, culturels, des ateliers scientifiques, un décryptage des éléments qui constituent cette laisse de mer, des conférences, des projections de films ou des sorties de nature. Actuellement, une exposition itinérante, surprenante collecte de bord de mer fait étape à l'espace culturel Saint-André à Abbeville jusqu'au 25 octobre. SOS laissedemer.com pour l'adresse. Rachel Lagière, bonjour.
Bonjour.
Rachel, vous êtes cofondatrice avec Christophe Coligny du Conservatoire du Goût, né en 2017. Alors, il y a une très mauvaise nouvelle et une bonne. On dit tout de suite, Christophe est décédé. C'était votre compagnon, vous êtes lancé dans cette aventure avec lui, vous avez décidé de prolonger ce conservatoire du goût en le déplaçant en Gironde. Je voudrais savoir, le conservatoire du goût dans la tête de Christophe en 2012, c'était quoi ?
Dans sa tête, c'était retrouver et sauvegarder les plantes qui avaient du goût et surtout les faire partager. Et en fait, c'est né suite aussi à différentes personnes, des maraîchers et des jardiniers amateurs, qui lui demandaient tout le temps « Mais comment on pourrait avoir les mêmes variétés que vous dans notre jardin ?» Christophe était toujours très embêté de répondre « Je suis désolé, il faut aller chercher des graines aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, et sans ça, on va avoir du mal à les cultiver ici. » Donc, il apparaissait vraiment urgent de faire quelque chose pour rendre la semence accessible en France et qui est du coup une multiplication de personnes qui puissent cultiver et se régaler.
Pendant très longtemps, les semences paysannes ont eu des difficultés, souvenons-nous de Cocopelli, des difficultés à circuler parce qu'elles n'entraient pas dans leur répertoire officiel et surtout, elles créaient un marché à part ou elles cassaient le marché plutôt de la semence.
Exactement. Et en fait, même si ça s'est un petit peu ouvert, c'est très très délicat encore aujourd'hui. Il n'y a toujours pas d'ouverture pour les paysans pour pouvoir vendre ces semences-là. Par contre, il existe quand même un moyen, on va dire, de détourner un petit peu la chose. Les semenciers vendent la semence qui n'est pas inscrite au catalogue officiel en signalant semences à destination essentiellement personnelle.
Oui. Alors, le conservatoire du goût, aujourd'hui installé à Florac, c'est intéressant d'ailleurs, Florac, petite ville qui s'ouvre à une agriculture urbaine, et vous en êtes la première bénéficiaire.
C'est vrai qu'on a la chance sur ce lieu, c'est le domaine de la Burte, donc c'est un lieu assez protégé puisqu'il y a 50 hectares de bois avec des écuries, donc plein de prairies avec les chevaux. C'est assez incroyable de trouver ce lieu en pleine ville, à quelques kilomètres de Bordeaux.
Et donc, à Floirac, votre conservatoire du goût, c'est un lieu de production, c'est un lieu de vente, d'échange, c'est un lieu aussi de préparation des saveurs qui sont partagées et utilisées maintenant par de grands chefs cuisiniers.
Oui, oui, c'est tout ça. Alors, c'est la première année vraiment. On a commencé à mettre en culture au printemps. Les premières récoltes se sont faites cet été, début juillet. On a une vente sur la ferme le mercredi soir. Et puis, les restaurants, on livre une à deux fois par semaine. Le premier, ça a été le Prince Noir, qui est un restaurant à quelques kilomètres de la ferme. Mmh. Alors, moi, avec Vivien Durand. Et puis après, qui a ramené un petit peu d'autres mondes. Et puis maintenant, on travaille avec les chefs bordelais, étoilés ou non, mais en tout cas passionnés par le produit, passionnés par le légume. Et c'est vrai qu'il y a une belle équipe qui commence à naître de gourmands et gourmets.
Oui. Et donc le conservatoire du goût, votre conservatoire désormais à travers le monde, collecte des variétés. 3000 variétés pour l'instant ont été cultivées. Testé par des chefs cuisiniers étoilés et par des passionnés du légume.
Oui, il y a une première phase de test qui se fait dans les champs, on va dire. Je goûte un petit peu tout ce qui est cultivé. Et donc, une fois que c'est sélectionné dans les champs, on organise des séances de dégustation avec les chefs, donc bordelais, bretons et parisiens. Mmh. Pour le moment. Et puis, on travaille ensemble à essayer de décrire le mieux possible ce qu'on a goûté. C'est bon, d'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce qu'il y a une complexité aromatique? Et ce poivron, alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ah ben, il a un goût de pomme avec une texture de poivron et puis des arômes de poivron mélangés. Voilà, essayer de faire ce travail-là de description pour qu'ensuite l'information soit disponible une fois que la semence, elle, sera disponible en France, chez les semenciers partenaires, et que le jardinier amateur ou professionnel puisse choisir en faisant confiance à cette reconnaissance-là.
Formidable. Allez sur les pages du Conservatoire du Goût, la page Facebook, vous verrez les productions de Rachel. Ce sont des œuvres d'art, tellement c'est beau. Alors c'est aussi beau qu'appétissant, et on imagine les saveurs qui peuvent se dégager de ces produits extraordinaires. Dernière chose, les financements sont terminés, vous êtes toujours en recherche de financement?
Oh, on est toujours un petit peu en recherche de financement. On en demande toujours un petit peu plus parce que plus on a de moyens financiers et plus on peut avancer dans la recherche.
Évidemment. N'hésitez pas à soutenir et à suivre le Conservatoire du Goût. Chose remarquable. Merci Rachel.
Merci beaucoup Philippe.
Je vous annonce demain l'ouverture du 230e café Contact de l'Emploi de notre ami Paul Lomdowski, en particulier en Alsace. Demain à 9h, il y aura 22 entreprises représentées pour plus de 120 postes à pourvoir tout de suite. C'est le circuit court de l'emploi. Vous venez à 9h. Le lieu, c'est Phare de Lille, 29 rue du Général Liberman à Ilkirch. Vous allez là-bas et vous allez peut-être trouver directement un emploi, ce qui est génial.